Cour de Ravemann, lundi 26 mai 1997, au cercle du Frénois.
Apirion asalo amelar shelomo meatze alvanot. Alors on va essayer de traduire. Apirion, il y a deux traductions. Où c'est le dé, comme la choupa, le dé nuptial. Où c'est le palanquin. Asalo amelar shelomo. Asalo, il s'est fait. Il s'est fabriqué. Amener Shlomo, Akadosh Baruch Hu, Me'atzea Levanon, avec des bois du Liban. On va déjà traduire le deuxième verset. Amuda Vasa Kesef. Amudav, les poteaux. Asa Kesef, il a fait en or, en argent. Repidato Zahav. Le vidato, c'est la couverture en or. Merkavo argaman, tenture de pourpre. Toro ratsuf ahava, à l'intérieur ratsuf ahava, l'intérieur est ratsuf. Recouvert par Ava de l'amour, mi benot Yerushalayim, des benot Yerushalayim. On va voir qu'ici Rashi traduit par le peuple juif et non pas les 70 peuples comme il traduit chaque fois qu'il y a marqué benot Yerushalayim, les filles de Yerushalayim. Ici, tout le monde a compris qu'il s'agit du Ohel Moed, le sanctuaire qui était dans le désert, qui après était à Shiloh, en Israël, après était à Yerushalayim, c'est devenu le Beth Amidash. On va essayer d'expliquer qu'est-ce que c'est Atzea Levanon, les bois du Liban, l'or, l'argent, la pourpre, le pot. On va essayer de lire le prochain verset, parce qu'on a besoin pour comprendre ce verset-là. Tsehena ou Rena. Tsehena, sortez. Où Rena est voyée, Benot Sion, les filles de Sion, Ba Meler Shlomo, Ba Atara, la couronne, chez Itra Loimo, que sa mère lui a confectionné, Beyom Khatunato, le jour de son mariage, ou Beyom Simchat Libo, et le jour de la joie de son cœur. Et ici, il s'agit de Benot Tzion, les filles de Tzion. Et avant, on parle Benot Yerushalayim, les filles de Yerushalayim. La différence entre les filles de Yerushalayim et les filles de Tzion, on la comprend parce que on a dit que dans les autres versets, il y avait marqué Benot Yerushalayim, on s'adressait au peuple, aux 70 nations. Seulement ici, il y a marqué Mi Benot Yerushalayim. Il n'y a pas marqué Benot Yerushalayim. Il y a marqué Mi Benot. celle parmi les Benot Yerushalayim. Sous-entendu, tous les 70 peuples, le peuple juif aussi, s'appelle Benot Yerushalayim. À partir du moment où on dit Mi Benot Yerushalayim, c'est celui parmi qui est distingué parmi les Benot Yerushalayim. Et parmi ceux qui sont distingués parmi les Benot Yerushalayim, il y en a d'autres qui s'appellent encore Benot Sion. Sion, en hébreu, ça veut dire hein, distingué. Sion, lorsque on met une tombe, et on met une pierre tombale, pour montrer où est la tombe, la pierre tombale en hébreu s'appelle Sion. Sionim, Atsivilar Sionim, c'est un verset dans le prophète, ça veut dire des marques, des repères. C'est ce qu'on appelle Sion. Le Beth Amigdash se situant à Yerushalayim, tous les peuples de la terre s'appellent filles de Yerushalayim. Mais il y en a un qui s'appelle spécialement filles de Yerushalayim. Et parmi ce spécial filles de Yerushalayim, il y en a qui s'appellent Benot Sion. Rachidi Banim Shemetsuyanim Lo Bemila Tfilim Ubetzitzit. C'est les mitzvot qui se voient. Il y a des mitzvot qui ne se voient pas. Mais il y a des mitzvot qui se voient. C'est-à-dire que le peuple juif ici est désigné en tant que celui qui accomplit des mitzvot qui se remarque. Il est distingué. Il est différent. C'est un repère. Les autres ne se voient pas. Lui se voit. Si quelqu'un est turc ou indien ou allemand, normalement je ne devrais pas le voir sur lui. Mais un juif, on doit le voir. C'est pour ça qu'il s'appelle Sion. C'est la raison pour laquelle, il faut savoir entre parenthèses que même dans le mot sioniste, il y a une espèce de perversité à désigner tous ceux qui se remarquent en tant que juifs comme non-sionistes. Alors que le mot sioniste, ça veut dire celui qui se remarque en tant que juif. Benot Sion. Ça, c'est la première chose qu'il faut savoir. Ensuite, pour comprendre qu'est-ce que c'est Amener Shlomo, le roi Shlomo, chez Shalom Shelo, dont le Shalom, à qui le Shalom appartient. Il faut essayer de comprendre exactement la signification du Beth Amikdash, du Ohel Moed. Nous avons déjà parlé à travers les ustensiles et les sacrifices qui se faisaient dans le Beth Amikdash, de comprendre en quoi le Beth Amikdash est ce qu'on appelle le Giloui de la Shrina, la manifestation de la résidence divine. Mais on va essayer d'aborder d'un autre côté. Il est écrit dans les Sfarim qu'il y a quatre choses qui empêchent la perception pour l'homme de la divinité. C'est-à-dire chacun sait, pense, que c'est Dieu qui dirige le monde. Mais il y a quatre choses fondamentales qui font partie de ce qu'on appelle les trois mondes. Parce que vous savez qu'en hébreu, il y a ce qu'on appelle le Olam Abriya, le Olam Ayetzira et le Olam Asiya. On ne va pas rentrer là-dedans. La première chose, c'est l'existence d'une indépendance par rapport à Kadosh Baruch Hu. L'existence de l'homme lui-même, c'est la première chose qui fait opposition à la perception que l'homme a de la divinité. Je ne sais même pas si on peut arriver à concevoir. Nous, vous savez qu'on conçoit les choses avec notre sechel, avec une espèce de logique. On jongle avec des idées. Mais si on dit que Dieu sait tout et Dieu est partout, le fait même que l'homme puisse exister, c'est une ombre. Le fait même que l'homme puisse être indépendant et regarder à Kadosh Baruch Hu, ça fait en soi ombre à la divinité elle-même. La présence de l'homme, l'existence de l'homme, si on va aller jusqu'au bout des idées, c'est un Chilul Hashem. Ça veut dire que ça désacralise l'idée que nous avons de Dieu. Alors pour le résoudre, il y a beaucoup de théories philosophiques qui sont venues en disant « Moi je suis une partie du bon Dieu », il y en a qui disent qu'ils sont entièrement bon Dieu, il y en a qui disent qu'ils sont les fils. Mais personne n'a jamais vraiment bien compris cette idée-là. Les Chachamim viennent et disent, c'est très simple. Le fait de l'existence même de l'homme, c'est un barrage à la présence divine. On ne peut pas se sortir de ça. Il y a un deuxième barrage à l'existence, à la présence divine. C'est le fait que nous ayons le choix. C'est-à-dire que nous pouvons aller et nous avons des moyens d'aller dans un sens ou dans l'autre. De nouveau, c'est un barrage à la conception même que nous nous faisons d'Akadosh Baruch Hu. Comme nous avons surtout le souci des grandes choses, pas des petites choses, alors dans les grandes choses, ça se remarque. Les gens, ils vous disent, c'est pas bon. Hitler, Pol Pot, comment ils peuvent exister dans le monde? C'est un barrage à la présence divine. Le fait d'être libre. La troisième chose, c'est le fait qu'un homme a une perception plus sensible au niveau de ces concepts, de ce qu'on appelle la gashmiut, ce qui est naturel. La nature pour nous, c'est quelque chose qui se perçoit beaucoup plus facilement que l'image ou la perception qu'on pourrait avoir de la divinité. L'homme a été créé comme ça. La quatrième chose, oui, vous n'avez pas compris, on va répéter. Un homme a une perception qui est plus facile parce que ses sens sont les choses qui lui donnent le plus d'informations. Il a une perception plus facile de la gashmiut, c'est-à-dire de ce qui est sensible, de ce qui est touchable, de ce qu'on peut toucher, de ce qu'on peut voir, de ce qu'on peut sentir, plus que de la perception divine. La quatrième chose, c'est que les désirs de l'homme vont toujours dans le sens qui est contraire de ce qu'on appelle la divinité. C'est pour ça qu'en hébreu on appelle l'existence une avoda, un travail, un service. Vous allez me dire la troisième et la quatrième chose sont les mêmes, c'est pas la même chose, on va voir. Donc on va répéter. Le fait même que je puisse dire moi ou je, c'est le premier écran ma perception de la divinité. Le fait que j'ai des possibilités infinies et que je puisse être maître de certaines choses, c'est le deuxième écran. Le fait que je perçoive plus facilement des choses qui ne sont pas du trait de la divinité, alors que ce qui est divin, je le perçois avec une logique qui doit être beaucoup plus subtile et une compréhension qui doit être plus subtile que le reste, c'est le troisième écran. Et le fait que je sente que mon intérêt, mon bonheur, parce que je sais comment vous appelez ça, mon désir va dans le sens qui est un sens contraire à celui de la divinité, c'est le quatrième écran, c'est le plus pachouk, c'est le plus simple. Vous allez me dire à quoi ça sert de savoir ça? Ça sert à comprendre que on est obligé de filtrer même les perceptions qu'on a de ce qui est divin. Et on ne peut pas vivre si ces perceptions-là ne sont pas en accord avec les écrans qui sont naturels chez nous et qui cachent cette même perception. On ne peut pas vivre avec une idée si ça reste qu'une idée. On est obligé que cette idée-là devienne une vraie perception pour pouvoir vivre avec. Mais tant que ça reste une idée, on ne peut pas vivre avec ça. Pourquoi je vous dis ça? Comprendre à quoi sert le Beth Amidash, le temple, l'Ohel Moed, ça fait appel à des idées qui, lorsqu'elles restent au stade des idées, elles peuvent être très négatives pour l'homme. Et on va essayer d'expliquer pourquoi. Lorsque nous nous exprimons en termes de volonté, nous ne nous exprimons jamais en termes d'idées. Je veux, j'ai besoin. Il est écrit dans le Talmud Yerushalmi, dans le traité de Sota, une question que tout le monde connaît. D'un côté, il est écrit « Ve'avta et Hashem Elokecha » « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu ». De l'autre côté, il est marqué « Et Hashem Elokecha tira » « Tu le craindras ». Alors, c'est quoi le moteur? Le moteur, c'est la crainte, ou le moteur, c'est l'amour? Alors, Yerushalmi dit ceci. On a besoin des deux. Lorsque tu t'apercevras que tu es sonné, c'est un mot qui est dur. Sonné, ça veut dire celui qui haït, celui qui a de la haine. Alors rappelle-toi que tu es Oev, que tu as aussi de l'amour pour Dieu. Et celui qui est Oev, il ne peut pas être sonné. Celui qui aime ne peut pas haïr. Et lorsque tu voudras rejeter, Yerushalmi prend une expression qui est boet. Boet, ça veut dire donner un coup de pied. Écarter. Rappelle-toi que tu es yaré, que tu as de la crainte. Et celui qui a peur, ne peut pas se permettre de donner un coup de pied. Il faut utiliser d'autres moyens. Je ne peux pas donner un coup de pied dans la bombe atomique. Ça ne sert à rien. Celui qui est Oev, celui qui aime, il peut se permettre de donner quelquefois un coup de pied. Sois tranquille. Mais celui qui a peur, on ne peut pas se permettre. Donc encore une fois, Ve'avta et Hashem Elokecha, il y a marqué, il faut aimer et il faut craindre. Sers-toi de cet amour lorsque tu haïras. Et celui qui a de la haine, il ne peut pas être Oev. Lorsque tu voudras donner un coup de pied, tu dois te débarrasser. Tu n'as pas de haine, mais tu veux te débarrasser. Rappelle-toi que celui qui a peur, il ne peut pas se débarrasser. Qu'est-ce que veut dire Yuj? La plupart des gens, leur relation avec le bon Dieu, c'est la relation qu'ils ont avec le Kohen, ou avec le Lévi, ou avec le pauvre. C'est que le Kohen, il fallait lui donner la trouba, une partie de la récolte. On donne la trouba au Kohen. Au Lévi, on donne le Maaser Rishon, la dîme. Et au pauvre, on donne une autre dîme qui s'appelle le Maaser Ani. La plupart des gens ont une relation avec le bon Dieu qui est celle du Maaser ou de la trouba. C'est-à-dire, je te donne un petit peu et puis tu me fiches la paix. On appelle ça la ira, la crainte. C'est-à-dire quoi? Ils sentent qu'il y a quelqu'un au-dessus d'eux. Ils ont quand même envie de vivre leur vie tranquillement. Alors ils passent leur temps à donner du maaser au bon Dieu. Comme j'ai donné ce maaser, j'ai un petit peu étudié aujourd'hui, j'ai un petit peu prié. Alors maintenant, je suis libre, je suis tranquille. Cette attitude-là fait que ça engendre de la haine, ce qu'on appelle de la sina. Pourquoi? Parce qu'on a toujours quelqu'un sur la tête à qui on est obligé de donner. Alors aujourd'hui, on a envie de lui donner le maaser. Demain, on n'a pas envie de donner le maaser. D'être forcé de toujours devoir se débarrasser de quelqu'un, à la fin, même si on sait comment se débarrasser de lui, on va arriver par le haïr. On n'aime pas celui duquel on est obligé toujours de se débarrasser. On veut bien se débarrasser de lui, c'est une obligation. Mais on finit par le haïr. Ça, c'est l'attitude de la plupart des gens vis-à-vis du divin. C'est l'attitude la plus petite, celle qui est juste au-dessus de ce qu'on appelle Avodah Zarah. Avodah Zarah, c'est quoi? C'est, on est obligé de s'arranger avec les éléments, on est obligé de trouver des trucs dans la vie, alors on sacrifie à ces trucs-là, puis on est content, on est libre. L'attitude au-dessus, c'est de dire, c'est pas des trucs. La prière, c'est pas un truc. Je m'adresse à Kadosh Baruch Hu, 5 minutes, un quart d'heure, une demi-heure. Après, libre, tranquille. C'est une attitude de liberté par rapport au paganisme, c'est vrai. C'est une immense évolution, parce que les trois quarts de l'humanité ne sont pas arrivés à ça. Mais il en reste que c'est le juif le plus petit. Ça, c'est notre attitude à nous. Plus on va avancer dans la connaissance, et plus on va se sentir d'obligation, et plus le maaser va devenir 15%, 20%, 25%, et plus la haine va devenir grande. Ça, c'est une réalité. Alors, il y en a qui s'arrangent mieux avec, il y en a qui s'arrangent moins bien. C'est ce qui est écrit dans le Yerushalmi. Ve'avta, tu aimes. Bien sûr que tu aimes puisque tu donnes. Quand tu auras envie d'être sonné, de te dire, mais il y en a marre. Comme dans un couple. On donne, on donne, on donne. À un moment, ça suffit. On a toujours quelqu'un sur le dos. Rappelle-toi que tu es OEV. T'as pris en charge. On t'oblige pas. Qui t'a demandé de te marier? Qui t'a demandé d'accepter que tu sois juif? C'est l'attitude volontaire. La mitzvah. C'est vrai que tu te débarrasses. Mais c'est toi qui as choisi. Ne fais rien. Si tu faisais rien, tu n'aurais pas d'haine. Maintenant, parce que tu fais un petit peu, tu as une haine. Rappelle-toi que tu es Goël. Ça veut dire que c'est toi qui es premier dans l'affaire. Et au contraire aussi. Puisque c'est moi qui aime, aujourd'hui j'aime pas. Aujourd'hui j'aime moins. Aujourd'hui c'est à l'autre d'aimer. Tu es bohète, tu vas te débarrasser de l'autre. C'est pas parce que tu l'as sur la tête, c'est toi qui as choisi. Mais on ne choisit pas tous les jours la même chose avec la même amplitude. Alors rappelle-toi, à Yaré, il y a un patron. On est obligé de donner un petit peu. Ça, c'est le tchat dans le Yerushalmi. Ça, c'est l'attitude qui est la nôtre. Quand on le décrit comme ça, ça a l'air risible. Mais si vous réfléchissez, vous verrez que ça correspond exactement à nos attitudes la plupart du temps. À ce stade-là, plus il y a de manifestations divines dans le monde, et plus ça m'est difficile, parce que je suis obligé d'ajouter à ce qu'on appelle ça avoda. Je suis obligé de me définir autrement. Et plus je suis obligé de me définir autrement, et plus je vais arriver, pas toujours, mais à un moment je me dis comment, il y a le Cohen, il y a le Lévi, il y a le Ani, oula. Ça veut dire que le marché est menacé. C'est pour ça que on ne doit pas avancer dans la compréhension qu'on a de la Torah et des Mitzvot lorsque on voit que on devient un sonnet. Si vous analysez le mot sonnet, vous verrez qu'il est fait de trois lettres, Shin, Nun, Aleph, c'est-à-dire Enosh. C'est la première perception dont on a parlé, qui est celle qui fait écran à la personne divine, c'est l'homme lui-même. Enosh, c'est l'humanité, c'est l'existence de l'homme. En hébreu, l'humanité, on appelle ça Enoshut. Ma Enosh kitiz kirena. Enosh, c'est l'homme. Espèce humaine. S'il n'y avait pas d'homme sur terre, la perception divine, elle serait beaucoup plus facile. Mais il y a les hommes. Il y a moi. Il y a l'autre aussi. C'est-à-dire qu'avant qu'un homme se soucie de faire ce que le bon Dieu lui demande de faire, il doit se soucier d'abord de ne pas faire écran à l'existence même du bon Dieu sur la terre. Avant d'essayer de faire du Kiddush Hashem, il faut essayer de ne pas être soi-même un Chilul Hashem ambulant. Comment est-ce qu'on est un Chilul Hashem ambulant? Désacralisation, le Chol. Chilul, ça veut dire désacraliser. C'est le fait de vivre avec le sacré en lui laissant une partie comme étant le rachat du reste. Ça, c'est la première chose qu'il faut comprendre. La deuxième chose qu'il faut comprendre, c'est le fait que l'homme lui-même, son choix, sa possibilité qui est infinie, elle fait de nouveau écran à la présence divine. On va essayer d'expliquer. Chacun dans sa vie, il faut l'impression que ni le bon Dieu ni les autres ne l'aiment. C'est-à-dire qu'il est étranger à tout. Il est toujours obligé de conquérir. Il est toujours obligé de lutter. Toujours obligé de se bagarrer pour obtenir quoi que ce soit, et du bon Dieu et des hommes. D'où est-ce que ça vient ? C'est difficile à définir. Mais on peut le définir d'une façon très facile. Un jour, une jeune fille est venue m'aborder. Elle voudrait se marier. Mais le problème est de savoir avec qui. Qu'est-ce qu'on doit rechercher? Qu'est-ce qu'on doit choisir? Si on aime quelqu'un pour ses qualités, on s'habitue aux qualités, après on n'aime plus. Si on aime quelqu'un pour ce qu'il vous donne, un jour il ne va pas vous donner, on n'aime plus. Comment est-ce qu'on doit choisir? La réponse, elle est très simple, mais elle est très compliquée. Il faut choisir quelqu'un qui est en harmonie avec lui-même. Parce que celui qui n'est pas en harmonie avec lui-même, il a la haine de soi. Il ne se supporte pas bien. Alors celui-là, c'est sûr qu'on ne peut pas le supporter. Quelqu'un va vous dire, son ambition dans la vie, c'est la conquête de l'Everest. Même s'il en est encore au premier 500 mètres, il en a harmonie avec lui-même. Il n'est pas encore arrivé, de loin pas arrivé. Mais il fait ce qu'il faut pour y arriver. Après 300 mètres, il a eu un relâchement. Il est redescendu, il est remonté. Tout doucement, où il arrivera, où il n'arrivera pas. Mais il est en harmonie avec lui-même. Il n'a pas la haine de soi. Au contraire, ce qu'il veut, son projet, c'est quelque chose qui, pour lui, est aimable, on dirait. Mais quelqu'un qui n'est pas en harmonie avec lui-même, on ne peut pas vivre avec lui. C'est impossible. Parce que lui-même montre à chaque instant, si ce n'est pas chaque instant, il le montre souvent, qu'il n'est pas aimable. Parce qu'il n'est pas celui qu'il voudrait être. Il ne fait pas ce qu'il faut pour être celui qu'il veut être. Alors on ne peut pas s'attacher à lui. C'est-à-dire, bon, si c'est comme ça, alors comment on va savoir? Celui qui est en harmonie avec lui-même, même si c'est qu'aux échecs, on peut vivre avec lui. Même si c'est dans des petites choses. Mais c'est son truc. Pire que ça. Je ne sais pas si vous avez remarqué que les seuls gens avec qui on a des rapports faciles et qui sont ce qu'on appelle aimables, c'est-à-dire qu'on peut aimer, c'est les gens qui ont leur truc. Ce truc-là s'appelle le truc le plus bête. Par exemple, vous avez des adultes. Je vois un voisin comme ça. Il vous montre un jour un grand secret. Il avait 18 trains électriques dans sa cave. Et il les faisait marcher tous en même temps avec les aiguillages. À 60 ans, ça fait pitié. Mais c'est quelqu'un d'aimable. Il ne vous cherchera jamais d'ennui. Il n'a pas d'ennui avec lui-même. Il est en paix avec lui-même. C'est vrai, il est loin de son ambition, parce que l'ambition, c'est d'avoir 40 trains qui marchent ensemble. Donc il est encore très loin. Et toujours, il peste, parce qu'il n'a pas les moyens de s'acheter un train en plus, parce qu'il n'a pas assez de place, parce qu'il n'est jamais content, mais il est aimable. Si quelqu'un n'a pas de projet et il n'est pas en train de réaliser son projet, qu'il réussisse ou non, c'est pas grave. Qu'il aille au fond du projet, au contraire, les gens qui sont au fond des projets, c'est le plus ennuyeux. Mais c'est les gens avec qui on peut compter. Pourquoi? Parce qu'on sait qui ils sont. C'est exactement la même chose ici. La multiplicité des choix a fait que j'ai honte des choix que j'ai faits. Je ne me reconnais pas dans ce que je fais. Alors je ne suis pas aimable. Je ne suis pas aimable avec moi-même, je ne suis pas aimable avec les autres. Et les autres ne m'aiment pas non plus. Et j'ai l'impression que le monde ne m'aime pas non plus. Et j'ai raison, parce qu'il ne m'aime pas, évidemment que non. Parce que moi-même, je ne m'aime pas. Je veux qu'il aime qui? Celui que tu n'aimes pas. Non, on voudrait qu'ils nous aiment pour nous, mais nous, on n'est rien. Tout le problème vient de là. À partir du moment où un homme comprend qu'il doit s'atteler à un projet, qu'il ne doit pas en bouger, et que même lorsqu'il rate, ça fait partie du projet de rater. Il y a un aiguillage qui se coince, c'est pas grave. Ça fait partie de l'entreprise. À ce moment-là, il commence à pouvoir percevoir, parce que son problème, c'est plus lui-même, bien que il puisse être tout le temps avec des problèmes, mais son problème, c'est pas lui-même. Ça devient un problème technique. Comment résoudre? Il a une harmonie. Le choix, le fait qu'il soit libre, le fait qu'il puisse faire du mal, ça ne le gêne plus. Il devient quelqu'un qui ne fait plus écran entre lui et le divin. Ça, j'ai dit, ça c'était la deuxième chose. La troisième notion, il faut la comprendre. On peut parler du bon Dieu à l'infini. Ça reste des idées pour moi. On a une perception qui n'est pas nette. C'est comme des équations mathématiques. Le Maharal de Prague dit que si la Torah emploie des images, si la Torah parle de la main de Dieu, du doigt de Dieu, de la face de Dieu, c'est parce que l'idée de Dieu, on ne peut pas vivre avec elle lorsqu'elle est seulement au stade du Sechel, lorsqu'elle est au stade de la logique. C'est invivable. Pourquoi? Parce qu'on est toujours obligé de refaire toute la logique pour le percevoir. Donc on est toujours cassé par rapport à la perception des choses naturelles qui sont le plus grand écran avec la divinité. Au fond, je sais que celui qui va gagner, c'est celui qui a raison. Mais c'est une idée. Ce que je sais, moi, c'est que c'est le plus puissant qui gagne. De pouvoir avoir la même perception des deux choses, c'est un travail qui doit être fait par l'homme. Le fait de devoir faire ce travail, c'est encore un écran qui nous sépare, nous, du divin. On ne perçoit pas du tout, si ce n'est avec des raisonnements logiques. Dans un exemple. On va dire à quelqu'un, tout ce qui est divin est infini. Alors il a mis le mot infini dans sa tête. Il a certaines résonances de ce que c'est l'infini. Mais en fin de compte, il va me poser la question, il va me dire, mais pourquoi le monde il n'a pas fait comme ça? Et pourtant j'ai fait telle et telle mitzvah, pourquoi le monde il m'a fait ceci? Je lui dis, mais en quoi et comment tu peux te mesurer avec l'infini? Tu viens de dire qu'il est infini. Tu n'as rien à voir avec ça, toi. Ah, c'est vrai. Ok. On ne peut pas vivre éternellement avec un raisonnement qu'on est obligé de développer à chaque instant contre tout ce qu'on a de naturel, toutes les perceptions qu'on a. Donc on est obligé de s'habituer à percevoir la divinité de la même façon qu'on perçoit tout ce qui est naturel. Dit le Maharal, il dit ceci. Il y a un machal, il y a une espèce de parabole du mari El Ghazi. Elle est celle-ci. Si tu veux savoir combien le bon Dieu a de temps, et que tu veux te déshabituer de demander quand, parce que si tu savais le temps qu'il avait, tu ne demanderais pas quand. Mais nous, à chaque instant, on demande quand. C'est comme celui à qui on a dit, tu sais, pour le bon Dieu, Une seconde, c'est 1000 ans. Pour le bon Dieu, 1 milliard, c'est 1 franc. Pour le bon Dieu, des kilomètres, c'est rien. Alors c'est sûr que tu peux lui demander ce que tu veux. Tu peux dire ok. Et on lui dit, moi, est-ce que tu peux m'envoyer 1 franc? Vous lui avez répondu, une seconde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on jongle avec des notions qui ne sont pas nos notions. Comment est-ce qu'on peut faire pour que ça devienne nos notions? Alors il dit, le Maharal, il dit ceci. Il y a le Machal, il dit, il y a un oiseau quelque part. Il est percé sur une très haute montagne qui est faite de sable. Et tous les 1000 ans, il enlève un grain de sable. Et il le jette de côté. Et quand il termine, la montagne, alors là où il a jeté le sable, c'est une autre montagne. Et il se met sur la deuxième montagne, et il continue. C'est ça, infini. Et pour percevoir l'infini, tu as besoin d'un oiseau, d'une montagne, du sable. Oui. Parce que si je me mets bien en tête ça, alors j'arrêterai de poser des questions bêtes. Et j'arrêterai de me poser des questions bêtes. Mais il faut savoir se rappeler l'oiseau. Parce qu'on a besoin du sable, on a besoin de la montagne. Parce que le mois est fini. Si je peux parler à l'infini, il n'est pas si infini que ça. La dernière chose. C'est que chacun est empêtré avec ses besoins qui sont naturels chez lui. Et dit l'idée même du divin, ça lui est une contrariété. C'est pour ça que lorsque Dieu reproche au peuple juif de ne pas avoir accompli les mitzvot, il ne dit pas qu'ils n'ont pas accompli les mitzvot. Tacha t'asher l'avata et Hashem elokecha ve simcha ulotul. On ne t'a pas dit pourquoi tu n'as pas accompli. Tu as accompli les mitzvot, mais pas le simcha. Qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas le simcha? Il est marqué dans les Pirkei Avot, dans le premier chapitre, Asse Rotsono ki Rotsoncha, Vehu Yase Rotsoncha ki Rotson. On va essayer de traduire. Fais Rotsono, fais de la volonté divine, ta volonté, Rotsoncha. Vehu Yase, et lui il fera de sa volonté, ta volonté. Nous, ça nous semble un truc. C'est-à-dire, on veut se dévoiler avec le bon Dieu. On a envie qu'il fasse ce que nous, on fait. Ce que l'on a envie de faire. Alors, on va dire, ce que tu veux, je fais. Si on s'aperçoit vite que c'est le contraire l'un de l'autre. Si moi, ma volonté, c'est la volonté divine, ben, il est évident que sa volonté, ce sera la mienne, puisque on a commencé par dire assez, Rotsono qui ressentra. Alors pourquoi tu as besoin de dire après, oui, assez, mais il n'a pas besoin de faire. Puisque à partir du moment où sa volonté, c'est la tienne, il est évident que quoi? Que puisque toi, tu ne demandes plus rien que ce que demande le bon Dieu, ben il demande ce que tu demandes. On ne comprend pas le pshat ici. Qu'est-ce que les pirkei avot? Encore une fois, il y a marqué assez, Rotsono qui ressentra. Fais de sa volonté la tienne. Alors Dieu aussi fera de ta volonté la sienne. Mais il n'a plus besoin de faire de sa volonté la mienne, puisque j'ai déjà fait la sienne, la mienne. Donc c'est toujours lui qui gagne. lorsqu'il y a marqué Aserotsono Kirtsantra, c'est pas du tout dans le même sens. Aserotsono Kirtsantra, ça veut dire que lorsque j'ai une mitzvah à faire, je peux me dire, c'est Dieu qui me donne la mitzvah, c'est vrai. C'est sa volonté, c'est pas la mienne. Mais si tout mon problème, c'est de savoir comment est-ce que je puis arriver à ce que je désire, ce soit quelque chose de haut, pas toujours quelque chose de bas. Mes désirs, mes besoins, je les connais. Mais on peut avoir un autre besoin. C'est d'avoir d'autres désirs, d'être quelqu'un d'autre. C'est ça ce qu'on appelle assez Rotsono Kirtsantra. Ça veut dire que je ne fais pas la mitzvah parce que c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Ce que je voudrais, c'est que la volonté d'Akadosh Baruch Hu, ce soit la mienne, que moi j'ai envie de le faire. C'est là-dessus que je travaille. À partir de ce moment-là, tous les moyens dont tu as besoin pour faire, le monde est à ta disposition. Où y a-t-il Rotsonra, Kirtsonra. Il y a assez Rotsono Kirtsantra. Tu as besoin de moyens pour faire ça. À ta disposition. Ça veut dire quoi? On passe notre vie à demander au bon Dieu des moyens pour faire ce que nous voulons. Alors qu'on devrait passer notre vie à lui demander des moyens de faire ce que lui veut. Ça encore sur un écran, c'est une difficulté qu'on a de relation avec le divin. Si quelqu'un fait le compte, après avoir passé un âge, je ne sais pas, 80, 90 ans, c'est pas la moyenne d'âge aujourd'hui, tout le monde a mangé à peu près la même chose. Un plus sucré, un plus facile, moins facile. C'est des choses qui sont tellement futiles, qui ont tellement peu d'importance par rapport au vrai problème de savoir quel est Rotsono. Alors, à la fin, sa propre volonté, c'est de savoir quel est le Rotsono. À ce moment-là, il n'y a pas de raison que je n'ai pas les moyens de le faire. Si on comprend ça, on va comprendre à quoi sert le Beit HaMikdash. Si j'arrivais à parler avec le bon Dieu, et que je puisse dire au voisin, tu vois, je suis en train de parler avec le bon Dieu, je ne suis plus un écran entre le monde et le divin. Parce que le Enosh, le fait que j'existe à part, ça devient du fait de sa volonté. Donc le contraire, au lieu d'être quelqu'un qui fait un écran, je peux être quelqu'un qui dévoile. Si je pouvais aller chez quelqu'un et lui dire, tu sais, le bon Dieu m'a dit de te dire que je ne suis plus un écran, lorsqu'il me voit, c'est pas qu'il ne voit pas la divinité, au contraire, il voit la divinité. On n'a même pas la conscience, nous, que lorsqu'on étudie et on parle, on est en train et on peut dire à l'autre, tu vois, le bon Dieu me dit que... Alors que c'est ça qu'on est en train de faire. Tout le Beit HaMikdash, tout le Ohel Moed, il est fait pour enlever ces écrans-là. Lorsque le Kohen, il approchait la flamme de l'autel. Il y avait une flamme qui descendait du ciel. La Gemara demande. Alors le Kohen, il n'a pas besoin d'amener sa flamme, puisque de toute façon, il y a le feu qui descend et qui brûle le corban. La Gemara répond mitzvah le avi min ha'ediot. C'est une mitzvah de le faire. Alors on ne comprend plus. Il y a deux possibilités de perception du divin. D'attendre que le bon Dieu se manifeste. Il y a des gens qui vous demandent à chaque instant, j'ai fait telle mitzvah, bon Dieu m'a fait. J'ai fait ceci, bon Dieu n'était pas là. Mais lorsque le Kohen il approchait la flamme, tout le monde attendait que Dieu envoie le feu. Ça veut dire que c'est le Kohen qui provoque que le feu descende du ciel. C'était possible de faire descendre le feu tout seul du ciel. L'homme, c'est lui qui peut montrer la présence divine. Et c'est son rôle. Ce qu'on appelle le Kiddush Hashem. Tout le Mishkan, tout le El Moed, c'est pour que l'homme ressente que ce qu'il fait dans sa vie, ça n'est que de provoquer le divin. Ça n'est que de se manifester et d'agir par rapport à ce qui est divin. Pour ça, il faut avoir ce qu'on appelle un tzion. Il faut avoir un dessin clair et précis. Si ça reste au stade des idées, c'est encore un écran. Ça qu'on a dit, c'est le troisième écran. Le fait que je ne perçoive pas l'un alors que je perçois l'autre. Je peux arriver à le percevoir aussi. Vous êtes assez comme ça, alors on n'a plus le choix. On a toujours le choix. Je vais donner un exemple très simple. Tout le monde connaît l'histoire de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva a été torturé par les Romains et il souriait. Est-ce que c'est un Kiddush Hashem ou un Kiddush Hashem? Voilà. On va poser la question nette. C'est un Kiddush Hashem ou un Kiddush Hashem? D'un côté, je dis, c'est le plus grand Kiddush Hashem possible. Pourquoi? Voilà un homme. On voit le résultat de la Torah. D'un autre côté, c'est un Kiddush Hashem. Parce que Moshe Rabbeinu lui-même, la Gemara raconte qu'il a demandé à Kadosh Baruch Hu, Zou Torah, Zou Sarah. C'est ça le salaire de la Torah, de se faire torturer, d'être obligé de mourir pour sa foi. Nous, on s'attendrait à ce que quelqu'un qui est tellement appris, qui est tellement respecté, il puisse vivre avec la Torah, pas qu'il soit obligé de mourir, pas que n'importe quel Romain puisse faire de lui ce qu'il a envie. Il n'y a pas de plus grand Kiddush Hashem. On peut voir comme on veut. Nous, on appelle ça Kiddush Hashem. Le goy, il appelle ça Kiddush Hashem. Tu vois bien, où est-ce qu'il était son bon Dieu ici? Où il était? Les gens vous disent, peuple juif, 6 millions, où était le bon Dieu? Crie la chef. Nous on dit le contraire. Il est marqué Bikrovaye Kadesh. C'est par ceux qui me sont propres que je serai sanctifié. On a déjà vu un peuple qui a été massacré. Rien que. Parce qu'il était ce qu'il était, on n'a jamais vu. Donc tu vois bien qu'il n'y a pas plus grand que ça. C'est pourquoi les autres s'acharnent. C'est un Kiddush Hashem. Tout dépend comment on le voit. voir d'un côté, on peut voir de l'autre côté. Tout dépend de la perception qu'on a. Si les choses sont au stade des idées, des choses nébuleuses, alors on se dit, bon, c'est vrai, Zoutorav, Zoutrava. Finalement, c'est pour en arriver là, une vie entière de Torah, c'est pas relusant. Un autre, il va percevoir les choses plus facilement. Il va dire, ah bon, une vie entière de Torah, ça permet d'arriver là, à Rabbi Akiva. Ah, c'est quelque chose derrière, ça vaut la peine. On est toujours libre. On peut toujours raisonner comme on veut. Même le Beit Hamikdash n'enlève pas la liberté. On va aller plus loin encore. Il y a marqué Arba Nichnasu la Pardes. Il y en a quatre qui ont accédé aux plus grandes connaissances possibles de la perception humaine. Ben Azaï, Ben Zoma, Acher et Rabbi Akiva. Ben Azaï et Ben Zoma. L'un met et l'autre est devenu fou. L'un il est mort, le deuxième il est devenu fou. Ben Azaï et Ben Zoma. Acher, Kitsetz Binetiot. Kitsetz Binetiot, notamment, ça veut dire, il a coupé les jeunes pousses. On va expliquer ce que ça veut dire. Rabbi Akiva, Nichnas V'yatsa V'shalom. D'abord, cette expression, il est rentré, il est sorti. Il n'y a ni à rentrer, ni sortir, on comprend quelque chose. On n'est ni rentré, ni sorti. On est celui qu'on est. Ils sont rentrés dans le Pardès, comme si on rentrait dans un jardin. Il fallait s'en sortir sain et sauf. Pourquoi rentrer, pourquoi sortir ? Si on se rappelle ce qu'on a expliqué, lorsque la pression elle devient trop forte, et lorsque je ne suis pas moi exactement d'accord avec mes idées, et que je vis comme le juif du Maaser ou de la Trouma, et que je sacrifie au bon Dieu quelque chose, mais qu'au fond, j'ai une sinage, j'ai une haine d'avoir un patron, plus le patron me montre qu'il est grand et qu'il est fort, et plus cette haine elle se développe. C'est qu'un homme a trois kélim, il a trois ustensiles. Il a son lèvre, il a son cœur, sa volonté. Il a son noir. Il a sa faculté d'intelligence. Il a ce qu'on appelle un neshama. Nous on appelle ça l'ambition. La relation avec le divin. Le premier, sa neshama, elle n'a pas supporté, il est mort. On voit certaines choses. Et ça n'a plus de relation avec sa propre ambition parce que c'est trop haut. On casse, on meurt. La mort, c'est ne plus avoir ce besoin de vie. De vie, c'est-à-dire de progression. La neshama se sépare du corps. On n'a plus de neshama. Entre parenthèses, c'est pourquoi il ne faut jamais prendre sur soi des choses. Je ne parle pas des mitzvot. Je crois que tout le monde est obligé. Mais des choses qui vont plus loin que ça, si ça vient de l'extérieur, ça vient de l'idée, ça ne vient pas de besoins personnels. Parce que plus on en fait, et plus le problème qu'on a relationné avec le bon Dieu, qu'on n'a pas envie d'avoir un patron, et qu'on est toujours en train de se syndiquer contre le patron, ça prend une telle proportion, ça coupe l'envie de vivre. Le deuxième, il est devenu fou. Pourquoi ? Parce que son moir, sa logique, elle n'a pas tenu le coup. De nouveau pour la même raison. Il avait les idées exactement bien cadrées. Mais il ne pouvait pas percevoir plus. S'il a perçu plus, il y a tout qui s'est décalé. Là, il était déjà persuadé que le monde le poursuivait à chaque instant. Il est devenu fou. Le troisième Kitsetz Benetiot, c'est le lève. Il n'avait plus envie. Kitsetz Benetiot, ça veut dire que chacun a des ambitions, des jeunes pousses, dont il sent qu'il peut les développer. Il y a un moment où ça se casse. Parce qu'il a compris qu'il ne serait pas à la hauteur. Si je percevais exactement ce que le bon Dieu demande de moi, j'arrêterai de commencer. Souvent, il y a des gens qui vous disent si j'avais pas appris, je serais plus tranquille. Comme ça, j'aurais moins besoin de faire. Ça s'appelle Kitsetz Benetiot. C'est-à-dire que tu es en train d'arracher les jeunes pousses. Pourquoi ? Toi-même, tu as des ambitions, mais tu les réfrènes. Pourquoi ? Parce que ça va être trop difficile. Tu es sorti de toi-même. C'est pour ça qu'on l'appelait Acher. C'est devenu un autre. Quelqu'un qui n'a plus de volonté, n'a plus d'ambition, il est autre. C'est ce qu'on appelle Kitsetz Benetiot. Il a coupé ce qui poussait en lui. Parce qu'il a vu l'exigence. Alors il y a marqué dans la Torah, Vagita Boyamam Velaila. Tu t'en occuperas jour et nuit. Vedibar Tabam. Dans les paroles de la Torah, Velobit Varim de Télim, il ne faut rien faire d'autre. Si quelqu'un a une conscience de l'acuité et de l'importance des choses, et il se rend compte combien chaque maasé, chaque chose qu'il fait, il y a des répercussions pour ses enfants, ses petits-enfants, s'il se rendait compte de l'importance des choses et qu'il voyait tout ce que la divinité est en train de tisser autour de nous, il n'y a que trois solutions. Ou il meurt, ou il devient fou, ou alors il s'arrête. Après, il veut devenir quelqu'un d'autre. On ne doit pas percevoir des choses lorsqu'on n'est pas en harmonie avec soi-même. Parce que lorsqu'on n'est pas en harmonie avec soi-même, on se perçoit et on perçoit ce qu'il faut faire d'une façon tellement antinomique qu'il y a le clash. Rabbi Akiva, il était en harmonie avec lui-même. Il savait qu'il avait beaucoup à faire. Il savait qu'il en avait fait beaucoup. Et il savait qu'il en avait encore peut-être plus à faire. Mais ça ne le dérangeait pas. Il ne pensait pas qu'il était quelqu'un de pas bon, qu'il était quelqu'un qui devait se haïr ou qu'il haïssait. Il n'avait pas honte de ses choix. Il faisait quelque chose de mal, il faisait tchouva. Il était dans le système. Comme il n'avait pas ce problème-là, Nichnas veyatsa. Pourquoi Nichnas veyatsa? Parce qu'un homme a des hauts, des bas. Quelquefois on rentre, quelquefois on sort. On n'est pas toujours le même. Mais si on est en harmonie avec soi-même, c'est pas grave. On peut se lever le matin en disant, j'ai pas envie de travailler. Si on sait que ça ne va pas durer plus que la journée, et qu'on s'est maîtrisé, c'est pas grave. On va le reprendre des vacances. Ça fait partie du système. Si on sait très bien qu'on pourrait travailler, et que c'est que de la lâcheté ou de la paresse, on a une haine de soi. Et plus on va me montrer, tu as vu comment tu manques au travail, tu as vu comment c'est là, et plus je vais avoir cette haine. Et plus on s'en prend au conjoint, plus on s'en prend aux enfants, et plus on s'en prend au bon Dieu, et plus on s'en prend à tout le monde. Parce qu'on ne sait pas vivre avec soi-même. Plus on a la perception du divin, et mieux on sait vivre avec soi-même. Le problème, c'est que faut toujours être en accord. Tu as fait une bêtise, arrange-toi. Tu ne fais pas ça, fais-le. Il faut que les exigences, elles puissent être en rapport avec le fonctionnement. Le type, il veut 40 trains. Bon, il en est au 18e, c'est pas mal. Il fait des efforts dans ce sens-là. C'est pas qu'il est en train de jouer à la plage. Il fait des châteaux de sable. Ah non. Ou tu as le travail avec le château de sable. Tu peux pas avoir les deux. Il est en accord avec lui. Nous, on passe notre vie à vouloir des trains électriques, à faire des châteaux de sable. Alors, on n'est pas en harmonie. Quand on n'est pas en harmonie, ça casse quelque part. Ce sont les gens qui viennent me disent, moi je voudrais bien faire ça, mais je peux pas. Je dis, si tu peux pas, c'est que tu veux pas. Non, je veux, mais je peux pas. combien on peut vivre avec toujours cette sensation de « je veux mais je peux pas ». À la fin, on a la haine de soi. C'est quelqu'un qui ne peut pas. Imaginez, vous êtes patron et l'employé vous dit « pourquoi vous n'avez pas fait ça ?»« Ah, je voulais mais je peux pas. » Et dis-moi. Une fois ça va, deux fois, non. On ne peut pas supporter ça. On ne peut pas supporter chez soi non plus. Le fait de vouloir comprendre des grandes choses vient souvent justement pour pouvoir jouer ce jeu-là. C'est de dire, maintenant j'ai compris l'importance. Maintenant je sais ce que Dieu exige de l'homme. Mais c'est beaucoup trop pour moi, c'est qu'il faut que j'arrête. Voilà. C'était ça le but. Ça s'appelle Acher. C'est quelqu'un qui vit avec un autre. Il a toujours un compagnon avec lui, Acher. Il n'est jamais en harmonie avec celui-là. Il ne fonctionne pas. Ça, c'est celui qui peut être malhonnête. Benaza et Benzoma, il ne pouvait pas être malhonnête. Il est devenu fou, l'autre, il est mort. Acher, il pouvait être malhonnête. Alors il est devenu malhonnête. Nous, on ne meurt pas. On ne devient pas fou. Alors on devient Acher. On s'habitue à vivre avec un personnage qu'on n'estime pas. Et après, on se demande pourquoi le monde non plus n'estime pas celui-là. Pourquoi les autres n'estiment pas. La seule solution qu'a un homme, c'est que ce qu'il comprend, il fasse des efforts pour que ça devienne chez lui exactement la même perception que ce qui lui est naturel. Ça, c'est le but du Beit Hamikdash, ça, c'est le but du Mishkan. D'avoir cette perception-là. Bien sûr, viendra le philosophe, il dit, mais vous êtes des enfants, vous avez besoin de ça, mais on n'a pas besoin. Bien sûr, tu n'as pas besoin de toi. Parce que toi, tu vis dans l'idée, tu n'as jamais rien besoin de faire. Alors, tu ne vis pas avec un autre. Ça, c'est la différence entre le peuple juif et les autres. C'est que les autres, on ne leur demande rien. Le goum, on lui demande Shira Mitzvot, 7 Mitzvot. Les 7 Mitzvot, c'est le respect de ce qui est extérieur à lui. On lui demande de respecter le bon Dieu, de respecter les hommes et de respecter les animaux. C'est ça, les 7 Mitzvot de nous. On te demande de respecter, c'est tout. Mais on ne te demande pas d'avancer. Alors cet homme-là, il est toujours en respect avec lui-même. Ça peut être le plus grand philosophe, il peut vivre dans des idées. Mais à côté de ça, il vit la vie la plus diluée, la plus dissolue possible. Ça ne le gêne pas parce que on ne lui demande rien. Il n'a pas le problème de assez rotsono qui rotsandra. Qu'est-ce que tu désires? C'est pas son problème. On lui demande de respecter, il respecte. Je tue personne, je vole personne. J'ai pas affaire avec le bon Dieu. Je jure pas faux. Les animaux, je les mange pas vivants. Il a fait les chemins de somme des noirs. Ça y est. Il est heureux. Le juif, il est différent. C'est pour ça qu'il s'appelle Benetzion. On doit voir sur lui qu'il n'est pas le même. C'est ça, mi Benot Yerushalayim. Tout le monde s'appelle Benot Yerushalayim. Pourquoi? Parce que Yerushalayim, c'est le centre, là où se trouve le Beit Hamikdash, et là où la divinité se manifeste sur la terre. Personne ne peut échapper, tout le monde, le juif comme le goy. C'est ça que le goy aussi pouvait amener des sacrifices sur le Tamidash. Mais il y a une différence. Le juif, il s'appelle Mi Benot Yerushalayim. Il est quelqu'un parmi. Comment tu sais qui il est? Parce que lui s'appelle Benetzion. Il est Metsuyan. Ça veut dire, on le repère. Dans le Beit Hamikdash, il n'y avait que trois choses, ou quatre choses, qui étaient les matériaux. Il y avait le bois, ce qu'on appelle le vanum. Le vanum, ça vient du mot binyan, Arzéa Levanon. Et alors, l'argent et le tissu. Quitter ce qu'on appelle Argaman. Alors si vous lisez les versets, c'est très simple. Apiriona Salo Ameler Shlomo. C'est comme quelqu'un qui fait un dé ou un endroit pour s'asseoir. Mais à Tsea Levanon. Il l'a construit, il a pris du bois de construction. Pourquoi? Parce que le binyan, c'est le propre de l'homme. C'est qu'il laisse quelque chose qui n'a pas existé. Le bon Dieu, il est boré. Mais vous ne trouverez jamais qu'il est bonnet. Il a créé, il a été yotzer. Trouvez tous les mots pour dire création. Mais vous ne trouverez jamais le mot binyan. Binyan, c'est le propre de l'homme. Ça veut dire que tu vas laisser une construction qui la tienne. Qui n'a jamais existé. Ça peut être sa propre construction. Ça peut être chez les autres. Ça peut être partout. Le but du Beit HaMikdash, c'est la construction de l'homme. Arzé à l'homme. Amudav asa kesef repidato zahav. Amudav. Les amudim, les poteaux qui étaient en bois, ils étaient accrochés ensemble par des montants qui étaient en argent. Refidato zahav. Le haron, il était recouvert avec ce qu'on appelle le caporet, qui était en or. Quelle est la différence entre l'argent et l'or? Zahav, c'est ce qu'on donne. Je vais faire plaisir à quelqu'un, je vais donner quelque chose en zahav. Alors que kesef, c'est ce qui s'échange. C'est pour ça que, et c'est même troublant, que ce que la Torah elle appelle kesef, ça a toujours deux sens. Kesef over la socher, l'argent c'est la monnaie en hébreu. Et même en français, on dit toujours argent. Et l'argent, le métal. C'est le même mot. C'est-à-dire que l'argent, c'est l'échange. Et en hébreu, le mot zahav, tout le monde sait que c'est le même du mot zehav, ça veut dire ceci, donne-le. C'est quelque chose en soi qui a une importance. C'est fait pour donner, c'est pas fait pour échanger. Pour échanger, on utilise l'argent. Lorsqu'un homme veut construire, il veut se construire sa personnalité, il veut se construire une famille, il veut se construire un entourage, il veut construire le monde. Il est obligé de savoir utiliser le kesef. Il y a un échange. Tu me donnes, je te donne. On n'a rien sans rien. Si je n'utilise pas des moyens, si je ne me sépare pas de quelque chose, on ne se sépare pas de ses biens, on se sépare de son kesef. On investit. On échange. Amudav asa kesef. Repidato zahav. Le ripoud, c'est ce qu'on met pour couvrir les choses. Par exemple, recouvrir des chaises, on appelle ça le ripoud des chaises. Recouvrir des murs, on appelle ça le ripoud. Repidatosa. Tu ne peux rien construire si ça n'a pas l'air de quelque chose que toi tu donnes. Ça veut dire lorsqu'on investit, c'est vrai qu'on a le droit de récupérer. L'argent, c'est le moyen d'échange, j'achète. Je me suis séparé de quelque chose, mais j'ai eu quelque chose d'autre. L'autre, il s'est séparé de quelque chose, il a eu quelque chose en échange. C'est l'échange. C'est comme ça qu'on construit. On a le droit même d'utiliser l'autre aussi. Moi, je fais un effort, lui aussi, j'ai le droit de compter sur son effort. Mais il faut que l'extérieur ce soit ce que je suis capable de donner moi, Zav. Zav, ça veut dire que je peux donner quelque chose parce qu'en soi, ça a de l'importance. C'est vrai qu'il y a toujours un échange derrière. Mais le ripoud emballé, il faut que ce soit emballé avec du Zav. Je fais la mitzvah. C'est vrai, et je ne peux pas m'empêcher un jour de penser que cette mitzvah, elle m'appartient, elle est à moi. C'est un investissement. C'est éternel. C'est ce que nous appelons l'Olam Haba. Mais emballé, ça doit être emballé, Zav. Merkavo Argama. Le pourpre, c'est la couleur du péché. C'est pour ça que il y avait au Beth Amigdash ce qu'on appelle le shon shel zehurit. Il y avait une laine tissée qui était à la porte du Beth Amigdash. Et à Yom Kippour, lorsqu'on avait terminé la avoda, elle devenait blanche. À cause du verset Imiu chatayechem kashalim kashel egalbim. La bechira, le choix, le péché, ça n'est pas quelque chose qui doit briser l'harmonie de quelqu'un. Le rouge, le sang, le mauvais, le ce qu'on pense qui n'est que quelque chose qu'il faut rejeter, ça ne doit pas empêcher l'harmonie de l'homme. C'est un matériau à utiliser comme tous les autres matériaux. Le choix, le fait qu'on fasse des erreurs, ça n'empêche pas que quelqu'un doit être en harmonie avec lui. Parce que les erreurs, ça ne se répare. Lorsqu'on ne veut pas les réparer, c'est là qu'on a le problème. Le nissayon, l'épreuve, même quand on tombe, ça a une valeur. On ne doit pas considérer que c'est quelque chose de négatif. Tocho ratzuf ahava, ça veut dire le fond, l'intérieur. C'est ça ce qui est la valeur, c'est ahava, l'amour, mivnot Yerushalayim, du peuple juif. Tsena uroena benot Sion b'amener Shlomo. On a expliqué pourquoi ahava et pas la ira. Parce que la crainte, c'est le début. La crainte, c'est ce qui doit retenir la personne. Mais le moteur, c'est l'ahava. Tsena uroena benot Sion b'amener Shlomo. Sortez, voyez, benot Sion. Ici, le peuple juif, on l'appelle benot Sion. Les filles de Sion. On a dit, Rachid, pourquoi? Parce qu'un juif, il doit se voir en tant que juif. Sinon, de nouveau, il fait écran entre Akadosh Baruch Hu et le monde, alors que lui, c'est celui qui doit apporter la divinité au monde. Et les gens passent leur temps à se cacher de ça. Bah, Meler Shlomo, bah, Atara, chez Itra Lohimo, la couronne que lui a confectionnée Imo, sa mère, Beom Chatunato, Beom Simchati. Alors là, il faut comprendre, c'est exactement tout le contraire de ce qu'on vient de dire. Mais si on a compris, alors on comprend aussi qu'il y a le contraire. Atara, c'est la couronne, chez Itra Loïmo, que lui a façonné Imo. En hébreu, la mère, c'est la même chose que le peuple. On emploie le langage mère, comme on emploie le langage, le homme, homme, c'est le peuple. Ba'atra, ba'atara, she'itra lo'imo, c'est la couronne que lui a confectionné son peuple. Be'yom chatunato, c'est le jour du matin Torah, du don de la Torah. Ou be'yom simchat libo, c'est le jour, ce qui a marqué dans la Torah, va'yi ba'yom ha'shmini, le huitième du Mea Milouim, lorsque le Beth Amigdash a commencé à fonctionner. On appelle ça la atara, c'est la couronne que le peuple juif tresse à Kadosh Baruch Hu. Ça veut dire qu'on peut ne pas être l'écran, mais au contraire la couronne. Couronne, lorsqu'on dit une couronne, ça veut dire qu'on peut montrer la personne. Celui qui a une couronne, ça qui a marqué que dans l'Olam Haba, le monde futur, Yoshim Tzadikim, les Tzadikim sont assis, veut atrotehem beroshem, leur couronne sur la tête. C'est quoi la couronne? La couronne, c'est la définition de la personne. Le baron, il a une couronne. Le duc, il a une autre couronne. Le roi, il a encore une autre couronne. Le prince, il a encore une autre couronne. Chacun, il se définit. On se définit parce qu'il y a au-dessus de soi ce qu'on a tressé au-dessus d'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire qu'au fond, lorsque le peuple juif sert dans le Beth Amigdash, sert dans le Moed, lorsque on pratique la mitzvah, c'est plus l'écran qu'on fait, c'est le contraire. C'est la couronne qu'on a tressée, que ilou sur la tête d'Akadosh Baruch. Vous allez me dire pourquoi employer une métaphore pareille? Sans métaphore, on ne peut pas raisonner. Atara, un homme doit comprendre que chaque mitzvah, chaque fois qu'il arrive à ce que sa volonté ce soit la volonté divine, c'est-à-dire pas ce que je veux faire, mais ce que je veux au fond, le « je » étant un Kadosh Baruch Hu, puisque ce n'est pas moi qui suis premier, même dans ma naissance, ce « je » là, si c'est confondu avec la volonté divine, avec la raison pour laquelle Dieu a créé le monde, ça devient une atara, une couronne. Chacun peut avoir une part, il peut tisser cette couronne. Mais pourquoi employer une métaphore pareille? Lorsque les enfants d'Israël ont vu la mer rouge, ils ont dit « Zé Kelivadriou, Zé ». Voici, celui-ci. Le fait de pouvoir désigner le divin, c'est ça ce que nous apprend la couronne d'Akadosh Baruch. C'est-à-dire distinguer d'où viennent les choses, qu'on appelle le Kiddush Hashem. Bon, c'est sûrement des questions.
On fait souvent un parallèle entre le Beth Amidash et le Shabbat. Le Shabbat, c'est dans le temps, le Beth Amidash, c'est dans l'espace. Le Shabbat, on connaît un peu mieux que le Beth Amidash, malheureusement. Est-ce qu'on peut faire un parallèle pour qu'on sente mieux, enfin, durant le Shabbat, c'est des choses que vous avez expliquées?
On peut faire un parallèle, mais c'est trop long. On peut faire un parallèle, mais c'est bon. Dans le Shabbat, il y a deux choses. Il y a la mitzvah assez, le fait de faire le kiddush, le oneg Shabbat. Tout ce qu'on y amène, et il y a les mitzvot, l'otassé, les interdictions. L'interdiction, elle est facile à comprendre. C'est qu'un homme doit pouvoir fonctionner sans les béquilles qui sont tout ce qui croit qu'il est absolument indispensable et que sans ça on s'en sort pas. Ça c'est le lotasé. Lotasé kol melacha. La melacha, c'est le contraire de la avoda. Les deux veulent dire travail. Avoda veut dire travail et melacha veut dire travail. La avoda, c'est dans le sens de service divin, culte, et la melacha, c'est dans le sens de ce qu'on doit faire pour se soutenir soi-même. C'est ça qu'on trouve dans la Torah, le moussak de Melechet Avoda. Encore autre chose. Le fait de cesser l'activité de Shabbat, c'est encore un écran qu'on enlève à la perception qu'on a des choses. Si on pouvait vivre tout le temps le Shabbat, on aurait moins la sensation de penser que ce qu'on fait, ça a une importance. Nous, on croit, c'est pour ça qu'on dit, ça c'est la dernière des perceptions, ou l'avant-dernière, qui fait écran à la présence divine, c'est que ce qui est naturel, ça nous semble beaucoup plus proche que ce qui est divin. Je sais, je fais telle chose, ça donne tel résultat. Ça, je connais. Je sais comment ça fonctionne. Même si je ne comprends pas, mais je connais. Comprendre, c'est autre chose. C'est qu'on ne comprend pas, mais une graine pourrit dans la terre, elle pourrit de plus en plus, et ça donne un arbre. Chachamé, ils ont mis un homme en terre, un jour ça donnera aussi un homme. Dis-nous, on a l'habitude, on n'a pas l'habitude, c'est tout, c'est la seule différence. Si on avait l'habitude de mettre les hommes en terre et qu'ils repoussent, et qu'on n'avait jamais vu un arbre pousser à travers rien, on dirait ça, c'est très anéclimé, ça. C'est la nature. Ça, c'est la fonction de l'OTA, c'est du Shabbat. La fonction du A, c'est du Shabbat. C'est de comprendre que tout ce qui est matériel, parce que c'est ça mon dans le matériel pratiquement, tout ce qui est matériel, ça doit être fait pour aider l'homme, mais il ne doit pas en être l'esclave. Ça doit être prêt. Oneg Shabbat, tout ce que l'homme investit dans le Shabbat, c'est comme si je disais, voilà, de toutes les choses dont j'ai besoin pour vivre, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, sans ça, je ne peux pas m'en sortir. Elles n'ont de valeur que s'il n'y a pas d'investissement. Le Shabbat, pour tout ça, il n'y a pas d'investissement. L'investissement a été fait avant. Si je sais ne pas investir là-dedans, alors j'ai pu, la plupart des problèmes qu'on a dit, qui provoque la Sina vis-à-vis de la Kadosh Baruch Hu. Donnez un exemple très simple. Quelqu'un qui a travaillé toute la semaine, il a travaillé, il a bossé, métro, boulot, dodo. Il a gagné 10 000 francs. Le lundi avant d'aller travailler, il a rempli un... Comment on appelle ça? L'auto. Toute la semaine, il s'est fait du souci, je vais gagner, je ne vais pas gagner. J'ai raison d'investir. Il a investi beaucoup d'argent. Il a investi 10 000 francs. Et rien qu'il a gagné 10 000 francs. Regardez comme il est content. Si j'ai gagné 100 000 francs, je suis encore beaucoup plus content. Qui est celui qui a investi le plus? Celui qui a travaillé toute la semaine? Celui qui s'est fait des soucis pendant toute la semaine pour l'argent qu'il a investi autour? Je ne sais pas qui a investi le plus. Mais ça, ça montre que l'investissement, il est rapport à l'importance qu'on lui donne. Imaginez-vous quelqu'un qui gagne la même somme, il avait oublié, Bichlal, qu'il avait investi au loto. Ah, il se rappelle, ils ont dit au talent, oh, il a gagné 100 000 francs. Il est content comme tout, pourquoi? Parce qu'il ne se rappelle même pas de son investissement. C'est pour ça qu'il est content. Nous, on pense que l'investissement, il est tellement fort de notre part, c'est un tellement grand effort, qu'après tout ce qu'on reçoit, c'est nul par rapport à l'investissement. C'est normal. Regarde comment j'ai investi. Et si je gagne exactement et j'ai pas perdu, je suis encore content. Pourquoi? Parce qu'on pense que l'investissement, c'est quelque chose d'énorme qu'on a donné. Alors qu'en vérité, c'est nul. Il y a marqué Im Hashem Yishmor, Shav Shakad Shomer Yom. Si HaKadosh Baruch Hu ne garde pas, tu peux mettre tous les gardiens, ça sert à rien. Im Hashem Oiv Nebait, Shavam Lou Walavo. Si à Kadosh Baruch Hu construit pas la maison, tu peux travailler autant que tu veux, elle tiendra pas. Cette sensation-là, que c'est le divin qui fait tenir les choses, et ça, ce n'est pas l'investissement, la loi de la nature qui fait tenir les choses, c'est ça qui fait qu'on est en décalage, et qu'on a cette haine vis-à-vis du bon Dieu. Mais si on se rendait compte de ça, on n'aurait plus tous ces problèmes. C'est-à-dire que l'investissement, c'est comme une histoire. Il y a un négatif dedans. Mais nous, on pense ça. Le Shabbat, c'est fait pour ça. Pour se détacher de ces choses-là. Chez Chétiav une table, ça, c'est le jour de la semaine. Maintenant, il faut prendre du recul par rapport à ça. Bon. Mais le Shabbat, c'est plus compliqué parce qu'il y a Moussak de Menoucha. Qu'est-ce que ça veut dire Menoucha? Oneg, Menoucha. Il y a encore autre chose. Il y a d'autres questions? Ok.
Le prochain cours sera demain dans 15 jours, le 9 juin.
C'est génial.
Comment ça va?
Et vous-même?
Bravo, quand je viens. Pas de neuf?
On évolue, on monte, mais... Ouais, c'est à vous, ça, mais je sais.
C'est vrai?
Oui.
Bravo, quand je viens.